Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 14. Deux mois plus tard, le cahier des charges était entièrement terminé. Jean-Clément Charles dut rencontrer plusieurs fois le directeur général du conseil régional, son président et même le préfet. Et il dut conduire aussi quelques réunions avec le président de l'université pour dessiner les contours de la coopération entre les laboratoires et automobiles composants. La construction d'une automobile propulsée à l'hydrogène faisait intervenir des spécialistes de nombreux secteurs, de la chimie à la mécanique, en passant par le design. Aussi, l'aide des chercheurs, autant que la main-d'œuvre bon marché que représentaient les étudiants et les doctorants, était indispensable à la conduite de ce projet. Sans ces aides, Automobile Composant n'aurait pas pu imaginer, concevoir et développer un tel véhicule. Jean-Clément Charles s'en rendait compte et commençait à percevoir l'intérêt de ce montage juridique complexe permettant de mettre en relation collectivités, universitaires et entreprises privées. S'il ne devait pas régulièrement rencontrer Paul But au conseil régional, peut-être aurait-il même fini par réviser son jugement sur les fonctionnaires et les hommes politiques. Jusqu'ici, il considérait en effet que la bureaucratie française était un obstacle à l'entrepreneuriat en toutes circonstances, tout juste bonne à empiler des impôts sur les taxes et à produire des législations tordues pour compliquer le tout. Avant de travailler sur ce projet particulier, il maudissait cette administration qui freinait ses efforts, mais il devait admettre que cette fois, les choses prenaient une tout autre tournure. La personnalité de Paul But, cependant, l'empêchait d'aller au bout de cette réflexion. Dès leur première rencontre, le fonctionnaire l'avait pris de haut et l'avait considéré comme un vieillard, avec un respect teinté de pitié et de moquerie. L'attitude qu'aurait eu un enfant poli envers une personne âgée. Attentionné, serviable, mais toujours prompt à rire des décalages de l'aïeul avec la vie moderne. Ainsi exhibait-il fièrement devant lui son téléphone portable, sur lequel il tapotait frénétiquement, même pendant leur réunion en tête-à-tête et leur déjeuner de travail. Agacé, le PDG cessait alors de parler immédiatement et s'apercevait que But ne l'écoutait plus depuis longtemps. « En ce qui concerne le rôle de l'université, commença Jean-Clément Charles. « Excusez-moi, un instant. » Le fonctionnaire sortit à nouveau son téléphone portable qui sonnait dans sa poche et s'éloigna quelque peu de la table à laquelle ils avaient pris l'habitude de déjeuner dans un restaurant du centre-ville, une fois par semaine, pour faire le point sur l'avancement du projet. Charles lui adressa un regard désapprobateur qu'il ne put voir, car il lui avait tourné le dos. Paul But revint quelques secondes plus tard, un sourire aux lèvres, sans même se rendre compte de son indélicatesse. « Vous disiez, l'université ?»« Je ne sais plus. » Il se souvenait parfaitement, mais c'était plus fort que lui. Il devait marquer son agacement d'une façon ou d'une autre, quitte à laisser croire qu'il était effectivement sur la voie de la sénilité. « Peu importe, mes équipes vont donc pouvoir envoyer le cahier des charges au service de l'État dès demain. Je pense que nous avons bien travaillé. »« Quand aurons-nous une réponse ?»« Ah ça, avec l'État, on ne sait jamais, cela peut prendre plusieurs mois. »« Plusieurs mois ? Mais comment voulez-vous que j'organise mes plannings avec cette incertitude ?» Nous devons faire avec ça, vous savez, maintenant, qui peut prédire ce qui se passera dans 6 mois? La vie est comme ça. » Le PDG comprit immédiatement la pique qui se cachait derrière cette réponse. Il chercha une réplique. « C'est l'administration qui est réputée pour son immobilisme. Vous pensez que vos agents seront capables de réagir à temps dans ce type de projet ?»« Bien sûr, ils ont été formés pour ça. Encore tout récemment, figurez-vous. Vous connaissez bien sûr la méthode Power. » « J'en ai entendu parler. » mentit-il pour ne pas être à nouveau pris en défaut par le fonctionnaire. L'ensemble de mes services travaille maintenant en suivant scrupuleusement les préconisations de cette méthode américaine. Je m'étonne que vous n'y soyez pas déjà passé, car c'est très adapté à l'industrie automobile.
Ah bon ?
Écoutez, je vous propose de rencontrer un ami à moi, Victor Lodz, qui est le spécialiste français de la méthode Power. Discutez-en avec lui, je suis certain que vous trouverez ça passionnant. Évidemment, si notre pôle régional voit le jour, nous pourrions utiliser ensemble les bonnes pratiques de management que la méthode développe.
Cela consiste en quoi, concrètement ?
Jean-Clément Charles savait détecter la langue de bois à des kilomètres et il devina avec justesse que Paul But n'avait aucunement connaissance des détails de mise en œuvre de la méthode dont il faisait pourtant la promotion. Le fonctionnaire s'en sortit par une pirouette. Je ne voudrais pas trahir les grands principes de la méthode en vous formulant ça avec mes propres mots. Tenez, je vous donne la carte de Monsieur Lodz, appelez-le. Et maintenant que j'y pense, je crois que nous devrions en parler dans le cahier des charges.
Mais, il est terminé le cahier des charges. Vous m'avez dit qu'il partait demain.
C'est juste. Mais ça me semble particulièrement pertinent d'ajouter un paragraphe sur la conduite de projet que nous allons mettre en place. Vous ne trouvez pas ?
Pourquoi pas ? Mais n'est-ce pas dangereux de faire des modifications de dernière minute sur un document que nous avons mis des semaines à finaliser ?
Mon pauvre, les modifications à la dernière minute, c'est le cœur de mon métier, c'est mon quotidien. Vous savez comme moi que la capacité d'adaptation est la faculté maîtresse du donneur d'ordre de nos jours.
À nouveau pris en défaut, Charles ne put se dérober. Il accepta cette modification tardive du cahier des charges en se saisissant de la carte de visite de Victor Lodz qu'il fit semblant de lire, mais sans ses lunettes, il n'arrivait pas à distinguer les petites lettres.
Le téléphone de Paul Butte sonna à nouveau et il en profita pour prendre congé définitivement. Jean-Clément Charles rangea délicatement la carte de visite dans son portefeuille, essuya la commissure de ses lèvres avec sa serviette, puis enfila lentement son manteau avant de sortir du restaurant, un peu affecté par cette entrevue désagréable. Il marcha en direction de sa voiture en regardant sa silhouette vieillissante se réfléchir dans les vitrines. Pensa à son épouse, qui donnait elle aussi des signes de fatigue, à ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis des mois. L'un d'eux travaillait en Californie. Il se demanda quelle heure il pouvait bien être là-bas. Il regarda sa montre, 14 heures. Il allait être en retard à sa prochaine réunion, et il détestait ça.